où le peuple exprimait librement son amour, sa passion, avec parfois même extravagance pour Jésus. Mais j'ai pu découvrir combien Dieu était satisfait lorsqu'il y a un peuple qui se réunit pour l'adorer et pour le célébrer. Le début d'année est pour nous un début qui est vraiment bien engagé, avec pas mal de missions dans les églises, de séminaires, de formations, qui nous a conduit à passer par Bordeaux, par Marseille. Il y a quelques jours, nous étions encore à Marseille. On a la joie maintenant d'être dans le nord de la France. On a fait tout le tour de France en quelques semaines. Et début d'année, j'étais aussi à Jérusalem pour toute une série d'enregistrements pour la télévision, pour les émissions de TBN qui sont diffusées sur toute l'Afrique francophone, sur le Maghreb. Et on bénit Dieu pour l'impact de l'Évangile. Et d'ici quelques semaines, nous allons nous rendre en Argentine pour une nouvelle convention destinée principalement aux leaders de Buenos Aires avec le ministère de Carlos Anacondia et Alberto Montesi. Donc nous allons vivre encore un temps au mois de mai de bénédiction, et je rends grâce au Seigneur pour l'Église qui, dans le monde, est active et désire voir le royaume de Dieu progresser. Il n'y a rien de meilleur que le royaume de Dieu. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, et c'est la justice par le Saint-Esprit. Comprenez qu'en venant dans cet endroit, et en vous réunissant autour de la personne la plus extraordinaire que la terre ait portée, vous avez l'opportunité de vivre quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire. J'ai saisi moi-même cette opportunité à l'âge de 17 ans et demi, lorsque j'ai entendu pour la première fois l'Évangile. Je n'aurais jamais pu imaginer que Dieu allait libérer ma vie à un tel point, qu'il allait me remplir du Saint-Esprit et qu'il allait me mettre sur une trajectoire qui allait me permettre de vivre des expériences les plus incroyables qui soient. Parcourir le monde, visiter les 5 continents, prêcher dans plus de 45 pays, dans des endroits les plus improbables, que ce soit au cœur de l'Afrique, dans des villages les plus éloignés, au cœur du Pakistan, à la frontière du Bhoutan, au pied du Kilimandjaro, au pied de l'Himalaya, au pied de la colonne d'Artigas en Uruguay. Avec Dieu, nous vivons des aventures extraordinaires. Je me souviens d'ailleurs d'un vol au Pakistan, alors que j'étais sur le point d'embarquer dans la ville de Karachi. L'humidité à l'extérieur était tellement intense que l'encre de mon billet d'avion était en train de se détacher et mon nom commençait même à s'effacer. Et j'avais du mal même à relire le numéro du siège dans lequel j'allais m'asseoir à l'intérieur de l'avion. Alors je monte l'escalier qui mène à l'intérieur de l'avion. L'hôtesse commence à regarder mon billet d'avion. Elle essaye de décrypter mon nom, de trouver mon numéro de siège. Et puis en lisant les numéros qu'il y avait sur le billet d'avion, elle me dit « Mais quel est votre nom ?» Et elle regarde, c'était marqué 007. Je lui ai dit « James Bond est mon nom. » Et je partais encore pour une nouvelle aventure à l'intérieur du Pakistan, dans la ville de Faisalabad, où 15 000 personnes sont venues entendre l'Évangile et ont découvert l'amour de Jésus. La vie que Jésus veut pour vous est une opportunité extraordinaire. La vie est faite d'opportunités. J'espère que vous êtes prêts à saisir les opportunités divines parce que ce livre, la Bible, la parole de Dieu, c'est le livre des opportunités divines. Il y a tellement de bénédictions à l'intérieur. Il y a tout un programme pour votre existence. Et je lisais un article il y a quelque temps dans un magazine où le rédacteur de l'article avait écrit « Si vous aviez une baguette magique, je peux avoir juste un peu plus de retour sur l'estrade s'il te plaît. Si vous aviez une baguette magique, qu'aimeriez-vous changer en priorité dans votre vie ?» Alors les réponses étaient multiples comme vous pouvez l'imaginer. Et parmi les sondés, 39% ont dit « Si je pouvais changer quelque chose, je changerais mon poids ». Pour 39%, est-ce que vous aimeriez changer votre poids? Ouais, toi tu voudrais? Moi aussi d'ailleurs, je vais prendre une bonne décision. Je voudrais prendre une décision ce soir, parce que je veux répondre à cette statistique et augmenter le pourcentage. Pour 39%, ils voudraient changer leur poids, moi j'aimerais bien changer mon poids. Alors est-ce que quelqu'un veut un morceau? Voilà, au premier rang, déjà, quelqu'un n'a pas pris la bonne décision. Qui veut un morceau? Vous êtes bien discipliné ici, hein? Qui veut? Personne? J'ai un auditoire de jeunes. Je suis dans le Nord, on mange des frites en pagaille. C'est gras, il y a des kebabs partout dans les rues. ils mangent un peu n'importe quoi, je leur propose du chocolat Côte d'Or, personne n'en veut, qui en veut? T'en veux un bout? Allez. Délivre-moi du mal maintenant. T'as vu, j'ai du mal à la lâcher, hein? Tu vas m'aider, hein? Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, fais passer. Mais serre-toi, parce qu'à force de faire passer, t'auras rien. Hein? J'en vois certains qui voient ça et qui disent non, c'est pas pour moi. Quelqu'un d'autre, là, je t'ai vu, toi là-bas. Hein? Allez, fais passer ça. Allez, amen. Merci Seigneur pour la délivrance. On commence la réunion déjà par une délivrance. La délivrance du chocolat. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que Dieu a bien plus que du chocolat pour vous. Dieu a quelque chose de bien plus grand que le chocolat. Hein? Il a vraiment une bénédiction pour votre vie. Et dans le sondage, c'était aussi 36% « changer mon métier ». Alors, je ne sais pas si vous avez un job, si vous êtes obligé de travailler pour payer vos études. Ensuite, 35% voudraient changer leur âge. J'imagine que parmi vous, vous n'avez pas envie d'être vieux. Hein? Vous êtes content d'être jeune. Hein? Bon, à partir d'un certain âge, on se dit « tiens, ça serait bien qu'on fasse quelque chose. Hein? » C'est... Vous avez trouvé que j'ai regardé vers la droite de l'estrade. Hein? Bon, c'est pas mal intentionnel, hein? Mais bon, on peut être chauve et jeune. Hein? Non, non. Ensuite, 32% voudraient changer d'époque. 20% aimeraient changer de caractère s'ils le pouvaient. Ah, j'imagine que vous aimeriez bien peut-être changer votre caractère. Il n'est pas si magnifique que ça. 19% voudraient changer leur taille. Quels sont ceux qui voudraient être plus grands? Voyez. Quels sont ceux qui aimeraient être plus petits? On en a. Il y en a qui voudraient être plus petits. Ensuite, 8% voudraient changer de conjoint. Alors, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui sont déjà mariés. Il y en a là. C'est les vieux qui sont mariés, c'est ça. J'ai compris. Ensuite, alors là, tournez bien, regardez bien votre voisin. 7% voudraient changer leur nez. Vous confirmez ou vous confirmez pas? 5% voudraient changer de nationalité. Ah, vous aimeriez être quoi? Ah, j'aurais voulu être américain. Qui aurait voulu être américain? Qui aurait voulu être népalais? Bon. C'est bizarre, hein? C'est comme ça, hein? Mais vous êtes français, vous êtes... Alors vous êtes d'où, dites-moi? Comment? Congo, Congo Kinshasa, Congo Brazza, oui, y en a. Cameroun, Togo, Bénin, Guyane. Ah. Tourcoing. Ah là, c'est la tribu Tourcoing. Alors attendez, 4% voudraient changer de sexe, vous imaginez? 3% voudraient changer leurs parents. Alors, je sais pas comment ils pourront faire, mais j'ai remarqué qu'il y a un chanteur qui disait on peut pas changer sa famille. Hein. Il y a des choses qu'on peut pas changer. Ensuite, sa belle-mère. Bon, quand on est marié, on peut pas trop la changer non plus. Ensuite, sa couleur de peau. Et Michael Jackson, tout ce qu'il a versé comme eau de Javel. Et pourtant, bien, on sait tous, tout le monde savait qu'il était noir et qu'il essayait de devenir blanc. Ensuite, les enfants. 0% voudraient changer leurs enfants. Ça rassure au moins. Comme quoi, vous voyez que aujourd'hui, tellement de personnes aimeraient pouvoir changer quelque chose, alors que la vie, elle est faite d'opportunités qui vont nous amener à changer. Je lisais aussi ce petit article qui retrace ceux qui ont un moment de leur vie saisi l'opportunité. Et vous verrez que tout au long de la vie, vous aurez l'opportunité de saisir. Le temps de votre visitation pour que quelque chose puisse changer. La jeunesse, c'est le meilleur moment, quand on est jeune, de faire les bons choix, de choisir les bonnes opportunités. Mais tout au long de la vie, vous aurez des choix à faire. Et il n'est jamais trop tard pour saisir une opportunité. Il n'est jamais trop tard non plus pour rêver. Quelqu'un a dit, certains passent leur vie à rêver alors que d'autres vivent leurs rêves chaque jour de leur vie. Et si vous mettez votre main dans la main de Jésus, je peux vous assurer que lui, Jésus, a prévu un rêve, c'est-à-dire une vision, un dessein, ou alors j'emploie souvent le terme, une destinée pour votre vie, pour votre existence. Il l'a déjà prévu d'avance. Et si vous lâchez votre vie entre les mains du Seigneur, vous allez entrer dans la destinée que Jésus a prévue pour vous. Ma mère avait prévu que ma destinée serait plutôt un destin voué entre les mains du diable, puisqu'elle était voyante, elle était guérisseuse, elle était devineresse, j'étais spirite et parapsychologue, et jusqu'à l'âge de 17 ans et demi, mon univers était celui de l'occultisme, de la boule de cristal, du marc de café, du tarot. Ma mère devinait sur ma vie, mais jamais elle n'a vu qu'un jour je serais prédicateur de l'évangile. Mon quotidien était un cauchemar, c'était l'angoisse, c'était les tourments, c'était le mal de vivre, c'était des pensées de suicide, des pensées de destruction, des pensées de mort. À l'âge de 17 ans et demi, j'étais sur le bord d'une fenêtre, prêt à me jeter dans le vide, parce que je n'avais pas d'avenir, ma vie n'avait pas de sens, je n'avais pas d'espoir. Mais le jour où j'ai entendu l'évangile, Dieu m'a placé sur une trajectoire qui m'a transformé. Et ce Jésus a le pouvoir de faire dans votre vie ce qu'il a fait dans la mienne. Mais votre vie ne sera jamais la mienne. Il est important que vous puissiez, vous, voyager en tenant le volant. Ne passez pas toute votre vie assis sur le siège passager. Il faut savoir que Dieu a un plan vraiment pour vous. Vous pouvez envier certaines personnes, admirer certaines personnes, mais ce qui est important, c'est d'être vraiment vous-même et d'être à la place que Dieu veut pour vous, parce qu'il a un plan pour vous. Et tout au long de la vie, des opportunités se présentent à nous et il nous faudra les saisir. Je lisais qu'à 35 ans, Yann Koum a fondé WhatsApp, Jimmy Wales a fondé Wikipédia. À 41 ans, Robert Noyce a fondé Intel. À 52 ans, Ray Kroc fonde McDonald's. À 55 ans, John Pemberton fonde Coca-Cola. À 65 ans, Harlan Sanders fonde KFC. À tout âge, ouais! Et à 33 ans, Jésus fonde le royaume de Dieu. Alléluia! Dieu soit béni. J'aimerais lire un passage, deux passages avec vous. Le premier dans l'Ancien Testament. Si vous avez la Bible, dans Ésaïe 49, regardez ce passage qui est magnifique. Ésaïe 49, versets 8 à 13. Et nous allons lire un parallèle dans le Nouveau Testament. Ésaïe, le verset va s'afficher. Ésaïe 49, verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Regardez ce passage. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Retenez bien ce passage, notez-le dans votre Bible, notez-le sur un morceau de papier, sur votre portable. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, au temps de la grâce. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 2, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 2, regardez l'apôtre Paul. Donc nous étions dans Ésaïe, plus de 750 ans avant Jésus-Christ. L'apôtre Paul, qui est véritablement, au début de l'ère chrétienne, le fondateur, le développeur de l'Église de Jésus-Christ, reprend ce passage du prophète Ésaïe et lui, il l'inscrit dans le contexte du développement d'Église, de l'extension du royaume de Dieu. Il dit ceci, « Puisque nous travaillons avec Dieu au développement du royaume, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Et il affirme, voici, c'est maintenant, maintenant l'opportunité. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Deux passages qui convergent ensemble vers un même but, le temps favorable. Dans l'Ancien Testament, le temps de la grâce, le temps de la visitation, le jour du salut dans le Nouveau Testament, le temps de la grâce. C'est vraiment prophétisé. Ésaïe a prophétisé ce temps que nous vivons aujourd'hui avec l'extension de l'Église au travers de la proclamation du nom de Jésus-Christ. C'est véritablement une opportunité unique dans toute l'histoire de l'humanité. Il est vraiment question du temps de la grâce, du temps favorable, du temps qu'il faut saisir. Souvenons-nous de ce passage de la parole de Dieu, lorsque dans le plus profond désarroi, le Seigneur arrive à Jérusalem, il voit la ville, il s'approche de la ville, il pleure sur Jérusalem qui n'a pas su saisir le temps de sa visitation. Il pleure parce qu'ils n'ont pas saisi le temps où Jésus est venu à leur rencontre pour leur proclamer le message du royaume de Dieu. Et vous, ce soir, dans cet endroit où vous êtes en train de l'entendre, vous entendez le message du royaume de Dieu. C'est cette femme écrivain français, Karine Twill, qui a dit « Tout dans la vie n'est qu'une question de détermination, c'est une question de désir, tout n'est qu'une question d'opportunité et de rencontre à saisir. » Et la plus belle des rencontres qui soit, c'est celle de Jésus. Parce qu'elle va vous placer sur une trajectoire qui va transformer radicalement votre existence. Mais cette transformation n'est possible qu'à la seule condition, vous acceptez réellement de confier votre vie au Seigneur et de lui faire radicalement, totalement confiance, ne jamais douter qu'il va tout prévoir, qu'il a tout planifié, qu'il a un plan pour votre vie et qu'il saura pourvoir à tous les différents besoins, toutes les différentes aspirations, tous les désirs et les rêves de son de votre existence, car il va inscrire dans votre vie ses rêves à lui. La Bible dit qu'il nous a créés d'avance pour de bonnes œuvres, c'est-à-dire pour des rêves qu'il a préparés d'avance pour nous. Il a créé toutes ces choses d'avance pour nous. Et je voudrais attirer votre attention sur le Nouveau Testament quand Paul est en train de parler de ce temps de la grâce. Dans le texte grec, le terme employé, c'est kairos, kairos. J'en parlais hier soir dans la réunion. En grec, il représente le concept qui permet de définir le temps et de le situer de façon chronologique. C'est-à-dire, c'est le temps de l'occasion, c'est le temps de l'opportunité qui comporte une décision. Et à partir de cette décision, quand on saisit ce temps kairos, il y aura un avant et il y aura un après. Il va y avoir un véritable changement. Aussi, c'est le nom d'un dieu grec qui est représenté par un homme, un dieu qui est véritablement spécial. Paul emploie le terme kairos, et dans la culture de son époque, dans la culture mythologique, ceux qui entendaient résonner le mot grec kairos, tout de suite cela faisait référence à ce dieu de la mythologie, un dieu bizarre, parce qu'il avait une drôle de coupe de cheveux. Il était chauve partout, sauf à un endroit. Il avait une touffe sur la tête. Et dans la tradition, dans la mythologie, il était enseigné que lorsque Kairos passait, il y avait plusieurs attitudes. On l'ignorait, ou alors on le regardait passer, ou alors, on le saisissait par la touffe de cheveux. Ce qui signifie qu'on saisissait l'opportunité. On saisissait le temps favorable, le temps de l'opportunité, le temps de la visitation. Et Paul est en train d'utiliser ce mot kairos pour expliquer aux chrétiens de Corinthe qu'il y a un temps de visitation au travers de Jésus-Christ. Bien entendu, ce temps dépasse tout ce que la mythologie, tout ce que les philosophies de ces époques-là pourraient nous offrir aujourd'hui. Il est question de tout ce que Jésus peut donner dans notre vie. Il y a plus que Kairos ce soir. Il y a Jésus, le Christ, qui n'est pas une idée, qui n'est pas un concept. Jésus qui est une véritable réalité, qui est le Fils de Dieu. Jésus est réel. Jésus n'est pas un être virtuel. Il y a tellement de conceptions de Jésus. Tellement de visions de Jésus. Si vous tournez vers l'islam, eh bien vous allez découvrir que Jésus n'est qu'un prophète. Si vous vous approfondissez le mormonisme, les témoins de Jéhovah, si vous vous tournez vers la scientologie, vers l'hindouisme, même dans le bouddhisme, Jésus serait un initié de Bouddha qui a connu une réincarnation 500 ans plus tard. Donc Jésus n'est pas perçu, comme la Bible le dit, dans toutes les religions autour de nous. Il y a des dizaines et des dizaines de concepts de Jésus. Mais le Jésus de la Bible, celui qui nous visite, celui qui veut nous changer, c'est celui qui est réel. Il est venu réellement sur la terre il y a 2000 ans. Jésus a réellement marché en Israël. Il a réellement accompli des miracles, délivré les possédés, ressuscité les morts. Et il est réellement mort sur la croix. Ce n'est pas un ange qui a pris sa place. Il a réellement donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Et le troisième jour, ceux qui sont allés dans le tombeau et qui sont sortis en poussant des cris ont dit « Il est réellement ressuscité !» Jésus est réel. Et parce que Jésus est réel, il a dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ainsi Jésus, qui est réel, veut vous donner une vie réelle, une vie spirituelle réelle, non pas fictive, non pas virtuelle, mais une vie authentique, par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus extraordinaire que la vie chrétienne. Vous êtes certainement fasciné lorsque vous surfez sur Internet. Je pense à ce site Second Life, ceux qui ont entendu parler de cela. C'est un site dans lequel on peut aller se fabriquer un genre d'avatar. On se fabrique un clone, une autre vie. Mais tout cela n'est que virtuel. Alors, j'imagine tous ceux qui sont devant ces sites Internet, qui programment leur avatar, qui essayent de se créer un personnage, parce qu'ils rêvent d'être quelqu'un d'autre, alors que Jésus désire venir faire sa demeure dans notre cœur, transformer notre existence, déverser sa vie en nous. On est dans le domaine du surnaturel, on est dans le domaine de la vie miraculeuse. Votre destinée est miraculeuse en Jésus parce que vous allez permettre au divin, au royaume de Dieu, de pénétrer dans votre cœur, d'habiter dans votre vie. Jésus vient à l'intérieur, il vient guérir vos blessures intérieures, il vient briser vos chaînes, il vient guérir votre cœur brisé, il vient vous consoler, il vient vous soutenir, il vient vous assister, il vient vous encourager, il vient vous exhorter, il vient vous parler. Toute la Bible parle de tout ce que Jésus est capable de faire grâce à la puissance du Saint-Esprit. Waouh ! Hallelujah ! Ça, c'est extraordinaire parce que c'est une vie miraculeuse qui ne réclame pas de connexion particulière sur Internet. C'est quelque chose que l'on peut vivre 24 heures sur 24, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, même s'il n'y a pas de connexion Wi-Fi. Partout, je peux être connecté avec Jésus. Partout, je peux développer une relation avec lui. Quand je suis à l'école, quand je suis au travail, quand je suis dans le métro, dans le tram, dans un avion, je parcours le monde, je suis dans les situations de détresse les plus totales, Jésus m'accompagne, il est avec moi. Jamais rien sur la terre ne pourra remplacer le fait que le divin soit avec moi, que Jésus habite dans mon cœur, et quand je marche, il est avec moi, il m'accompagne partout où je vais. Dieu soit béni pour la vie miraculeuse, la destinée miraculeuse d'un enfant de Dieu. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Personne sur cette terre n'est capable de fabriquer ce que Dieu opère dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Mais pour vivre cela, il faut saisir l'opportunité. Et la vie chrétienne est faite d'opportunités. L'opportunité d'entendre la bonne nouvelle, c'en est une. Et vous avez l'opportunité d'entendre la bonne nouvelle. Oh, je bénis Dieu pour cette première fois. La première fois où quelqu'un m'a parlé de Jésus. La première fois où Dieu s'est manifesté. La première fois où je suis entré dans une salle comme celle-ci. La première fois où j'ai vu un homme tenir une Bible dans sa main. La première fois où j'ai ressenti la conviction de péché, le Saint-Esprit qui venait me faire prendre conscience de mon état intérieur. La première fois où je me suis levé pour m'avancer. La première fois où un pasteur a mis sa main sur moi, m'a témoigné de son amour, a prié pour moi. La première fois où l'Esprit m'a visité et où j'ai été libéré de mes chaînes. J'oublierai jamais la première fois où je suis sorti de cet endroit avec une paix intérieure. Je savais que j'étais pardonné. Je savais que j'étais comme un apôtre de Jésus-Christ. J'étais une créature nouvelle. Je n'oublierai jamais cette première fois. C'est unique. Seul le royaume de Dieu est capable de fabriquer de telles choses. L'opportunité d'entendre la bonne nouvelle. Saisissez cette opportunité ce soir d'entendre cette bonne nouvelle. Je me trouvais à New York il y a quelques années. Je prêchais dans une méga church et à la fin du service, le pasteur avec sa grande assemblée, eh bien, saluait les membres. Il me dit, Franck, tu as quelques minutes, je dois me rendre à quelques blocs de l'Assemblée pour prier dans le cadre d'une grande festivité. Il y a plus de 12 000 personnes qui sont rassemblées. Et plutôt que de rester là dans le hall, viens avec moi, ça va durer une petite demi-heure. Alors, je l'accompagne, nous parcourons quelques centaines de mètres, on arrive sur un grand boulevard et là, arrivant sur le grand boulevard, il y avait une immense estrade avec des groupes de chants qui passaient les uns derrière les autres. Il y avait tous les policiers américains qui faisaient la circulation, 12 000 personnes en train de danser, de sauter, de faire la fête. C'était toute une communauté ethnique new-yorkaise qui était en train de fêter la célébration d'une de ces fêtes. Et les télévisions étaient là et mon collègue pasteur s'approche des équipes de télévision. Les caméras sont braquées sur lui, je me mets un petit peu sur le côté et puis l'organisateur s'avance, lui tend le micro, commence à l'interviewer. Et en discutant avec lui, il lui demande quelle est l'actualité de son église. Et en parlant, il dit, bien, j'ai avec moi ici un pasteur français qui vient pour toute une série de réunions d'évangélisation. Et quand l'organisateur entend qu'un pasteur français est là à Brooklyn, en plein New York, il lui dit, ah bon, un pasteur français, alors on me tend le micro, on commence à discuter avec moi. Et l'organisateur dit, exceptionnellement, monsieur le pasteur, cette année, comme il y a un visiteur, un pasteur français à New York, seriez-vous prêt à lui laisser votre place? Et on me dit, mais voulez-vous intervenir sur le podium? Vous avez 12 000 personnes, on vous laisse 15 minutes. Waouh! Vous imaginez en plein New York, sur un grand boulevard, vous avez toute la sonorisation, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les gens qui sont là en face de vous, vous en avez 12 000 qui tout à coup s'arrêtent de danser, s'arrêtent de faire la fête, et ils sont là en face de vous, on vous met un micro dans la main, on vous dit, vous avez maintenant 15 minutes pour leur parler de Jésus. Un magnifique boulevard d'évangélisation était ouvert devant moi. J'ai saisi l'opportunité de proclamer la bonne nouvelle. Mais ceux qui l'ont entendu ont saisi l'opportunité, à leur tour, de recevoir Jésus. Et j'ai pu lancer un appel et voir des centaines de mains dans la foule, après 15 minutes de proclamation, se tendre vers Jésus pour dire « Jésus, viens dans ma vie, change mon cœur ». Et quand le pasteur a vu ce qui était en train de se passer, il a vite passé un coup de fil avec son portable à l'église. Et les chrétiens ont couru avec des sacs remplis de Bibles pour nous rejoindre sur le boulevard d'évangélisation. Et ils couraient dans la foule pour donner la Bible, donner des tracts, donner des DVD, donner des CD, afin que tous ces gens puissent avoir tout ce qui est nécessaire pour poursuivre leur découverte du Seigneur Jésus. Saisir l'opportunité d'entendre l'Évangile. Vous entendez l'Évangile. Qu'allez-vous en faire? Est-ce que vous l'entendez par habitude? Ou simplement allez-vous le recevoir? Parce que cet Évangile est une bonne nouvelle. Il annonce Jésus. Et si vous recevez Jésus, votre vie ne sera plus jamais la même. Saisissez le temps de la visitation. Saisis l'opportunité d'entendre l'Évangile. Saisis l'opportunité d'une visitation. Dans ma Bible, Dieu se révèle partout. Et il y a tant de bénédictions, des temps de grâce, des temps de visitation. Billy Graham a déclaré « Dieu nous rend souvent visite, mais c'est nous qui ne sommes pas à la maison. » Dieu passe au travers de Jésus. Il frappe à la porte de notre cœur. Mais est-ce que nous allons ouvrir? Est-ce qu'au moins nous sommes prêts à ouvrir la porte pour que notre vie puisse changer? Il faut oser. Il faut oser permettre à Jésus de venir à l'intérieur de notre vie intime. C'est ce qu'il dit dans sa parole. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix, il entrera chez moi. C'est ça? Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Et on mangera quoi? Des frites et des pizzas. Dans la Bible, c'est marqué « on soupera ensemble ». C'est vrai que le souper, c'est plus trop d'actualité. Mais on mangera des bonnes frites ensemble. Je pense que ça vous dirait bien des bonnes frites en ce moment, à cette heure-là. Hein, mais imaginez que Jésus, il vient dans votre vie. Et il vient pour prendre place et dit « on va manger un bout ensemble, on va boire un bon verre ensemble, on va discuter ensemble, j'ai des choses à te dire, je veux étudier certaines choses avec toi, je voudrais qu'on devienne des amis, je voudrais établir une relation avec toi, voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et on passera un merveilleux moment ensemble. » C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce qui s'est passé pour un jeune il y a un peu plus d'une année. Près de nos bureaux à Troyes dans l'Aube. Nous avons notre base missionnaire là-bas et puis j'avais une réunion de prière le matin et puis j'entends une voix qui résonne dans la rue. Alors j'ouvre la fenêtre et je vois un jeune homme en bas qui propose de s'occuper de tailler les haies de notre base. Alors je lui demande « mais quel prix tu veux me faire ?» Alors il me donne un prix très intéressant comparativement à celui qui me le fait habituellement. Je lui dis « écoute, je descends » et je lui donne mon nom, je lui donne l'adresse de l'association pour la facturation. Et on se serre la main, on est d'accord sur le prix. J'ai dit, bah, écoute, à demain matin, mais attention, il y a plus d'une semaine de travail, tu as 4000 m² de terrain, il y a de quoi faire, donc il faut vraiment, je compte sur toi. Il n'y a pas de problème, monsieur, demain je serai là. Le lendemain, il vient. Et au moment de me saluer, il me dit, j'ai une question à vous poser, parce que c'est un jeune gitan. Et il me dit, j'ai une question à vous poser, vous m'avez dit que vous appeliez Franck Alexandre. J'en ai parlé avec mon père est un pasteur. Mais il me dit, moi, je ne suis pas chrétien. Mais vous êtes pasteur, vous êtes le vrai pasteur Franck Alexandre? Parce que mon père voudrait le savoir. Je dis, oui, tu pourras dire à ton père que je suis chrétien aussi, je suis pasteur, je connais Jésus. Ah, c'est formidable. Mais il me dit, écoutez, mon père m'a dit de réviser le prix encore à la baisse. Parce qu'il m'a dit, tu ne dois surtout pas voler un pasteur. Il faut être honnête avec un pasteur. Je dis, ah bon, déjà le prix qu'il m'avait fait la veille était super intéressant. Et je voyais le prix qui était encore divisé une nouvelle fois. Alors j'étais un peu embarrassé, je lui dis, mais oui, mais tu n'as pas gagné grand-chose. Mon but, je n'ai pas le droit de profiter de quelqu'un. Mon but, c'est de te payer en fonction du travail que tu vaux véritablement. Et il me dit, non, mon père m'a dit cela, je veux obéir au patriarche, c'est le chef de l'équipe là-bas, c'est le chef du camp, et je dois le respecter. Je dis, d'accord, alors accepte au moins une chose. Il me dit quoi? Permets-moi de prier pour toi. Ah, il me dit, non, priez pas pour moi, surtout pas. Je dis, pourquoi tu veux pas que je prie pour toi? Il me dit, il regarde à droite, il regarde à gauche, il me dit, vous savez, moi je suis un homme impur. Je dis, comment tu es un homme impur? Et il me dit, il faut pas me toucher, il faut pas prier pour moi. Mais je dis, mais tu peux rien me faire. Tu peux rien me faire. C'est moi qui vais te faire quelque chose. Je veux te bénir. Mais il me dit, non, parce que je vais vous souiller avec mes péchés. Toi, tu vas me souiller par tes péchés. Je dis, écoute-moi. Jésus, il est venu du ciel sur la terre. Personne ne l'a jamais souillé. Et lui, il a purifié les hommes. J'ai reçu l'évangile du royaume de Dieu. Toi, tu ne vas pas me souiller, mais si je prie pour toi, ta vie va changer. Ça l'a un peu stupéfait. Il me dit, vu sous cet angle, d'accord. Alors il rentre à l'intérieur de notre base. On a un grand hangar de plus de 1200 mètres carrés. On a nos bus qui sont garés à l'intérieur, nos studios de télévision. Alors il rentre dedans, il va sous la mezzanine. Et puis là, je reste avec lui. Je dis, tu veux bien, je prie pour toi alors. Oui, d'accord, allez-y, pasteur. Et je fais simplement ça, Seigneur, bénis cet homme. Mais à ce moment-là, il s'écrase, il s'effondre. C'est comme si je venais de le tuer, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il s'est mis à pousser des cris, à tel point que les membres de l'équipe se sont inquiétés à mon sujet. Ils se sont dit, le pasteur est en train de se faire égorger à l'intérieur du hangar. J'entendais les portes qui s'ouvraient pour voir qu'est-ce qui se passe. Il poussait des cris, il poussait des hurlements. Après un bon quart d'heure où il a pleuré, il est revenu à lui. Alors, il me dit, je peux vous parler? Je dis, oui, vas-y, parle-moi. Il faut que vous sachiez, mon père est pasteur et depuis l'âge de 14 ans, j'ai ma caravane à côté de la sienne. Sa caravane touche la mienne tous les soirs. Et il dit, mon père prie pour moi. Il dit, j'ai 28 ans. Ça fait 14 ans que mon père prie pour moi. Il dit, j'étais tenu par l'héroïne, la cocaïne. J'ai sniffé de l'essence pendant tant d'années. Tenu par la drogue, tenu, j'ai sniffé tant de choses, tant de produits, les plus abominables les uns que les autres, pour essayer de remplir ma vie, pour essayer de m'évader. Et il dit, là, c'est la première fois que je me sens un homme libre. Et un an après, j'ai pu rencontrer à nouveau Ismaël. J'ai pu avoir sa sœur au téléphone il y a quelques jours. Et elle me dit, Ismaël est complètement libéré de toutes les drogues dont il dépendait. Complètement. Maintenant, il va dans les réunions où il entend l'évangile. Il célèbre Dieu. Et j'ai pu être le témoin de la visitation de ce jeune homme, tout simplement parce qu'il a osé. Il a permis à la porte d'être entrebâillée pour que Jésus puisse entrer. Et je vous invite vraiment ce soir à ouvrir la porte. Permettez à Dieu. Trop de personnes passent à côté du temps de la visitation. Kairos, Jésus passe. Et au lieu de l'attraper, ils le regardent passer. D'autres sont bénis et ils voient à côté d'eux les autres qui sont bénis les uns après les autres. Ils en voient certains remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, guéris de maladies, visités, guéris intérieurement, consolés, secourus. Ils voient autour d'eux des jeunes qui disent « Mais moi, Dieu se manifeste dans ma vie, Dieu intervient dans ma vie, mais d'autres... » Ils ne voient rien se produire parce qu'ils n'ouvrent pas la porte de leur cœur. L'opportunité d'entendre la bonne nouvelle, l'opportunité d'une visitation de la part de Dieu, l'opportunité d'une bonne action. Ce sont des opportunités que je vous invite à saisir. Vous savez que Dieu vous bénit pour que vous puissiez bénir. Dieu vous arrose pour que vous puissiez arroser. Je me souviens de cette mission à New York à la fin. Ce soir-là, on rentre en plein cœur de Manhattan. On m'avait mis au 17e étage d'une tour. Et puis, on nous avait rempli un sac avec de la nourriture, des pâtes, des pizzas. Il y en avait pour... On était trois pasteurs. On a commencé à manger tout ce qu'il y avait. On n'en pouvait plus. Il y avait une panne de climatisation. Alors, je dis aux collègues, mais si on laisse ça dans la chambre, demain matin, on pourra tout mettre à la poubelle. Et je leur dis, écoutez, vous n'avez pas vu dans la rue tous ces gars qui dorment par terre? Ils me disent, oui. Il n'y en a pas le droit de mettre ça à la poubelle. Je vous propose d'aller manger avec eux. Vous êtes d'accord? Et les deux pasteurs me disent, oui, ok, super. Alors on emprunte l'ascenseur grande vitesse. On arrive sur le pavé. On parcourt quelques centaines de mètres. Et puis là, on arrive dans un genre d'une petite placette avec des bancs en béton. Je pousse un gars qui était complètement ivre. J'avance un peu plus loin. J'en vois un autre. Et il ouvre ses yeux. Il me regarde. Et je m'adresse à lui. Il est 22h30, costume, cravate, en plein Manhattan. Je lui parle en anglais comme seuls les Français sont capables de le parler. Et je lui dis, bonjour, je m'appelle Franck Alexandre, je suis le fils de la sorcière. Et le gars, il ouvre ses yeux, il me regarde et il s'assoit. Et je lui dis, je voudrais manger avec toi. Alors un Français qui veut manger avec un Américain en plein Manhattan, ça, il faut le voir, il faut le croire. Alors je lui dis, regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il voit toute la nourriture que je sors de l'intérieur du sac et les larmes commencent à couler sur ses joues. Après quelques minutes où il mange... Je lui dis, écoute, j'aimerais bien prier pour toi. Je suis pas venu par hasard. Dieu m'a permis de traverser l'Atlantique pour que je te rencontre parce que Dieu a un plan pour toi. Je voudrais prier pour toi. Comment tu t'appelles? Et là, il me dit, je m'appelle David. Je dis, comment? Je dis, tu t'appelles David et tu dors dans la rue. Tu portes le nom d'un roi et tu dors dans la rue. Dieu ne t'a pas créé pour dormir dans la rue. Dieu ne t'a pas créé pour être mendiant. Dieu t'a créé pour que tu marches dignement pour lui. Dieu t'a... Et il me dit tout à coup, mais avant, monsieur, je connaissais Dieu. Je dis, quoi ? Il me dit, j'allais à l'église. Je lisais dans la Bible. Mais j'ai fait tout plein de mauvais choix. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je me trouve ici, dans la rue. Alors j'ai prié pour lui. J'ai saisi l'opportunité d'une bonne action pour David. Et je lui dis, David, regarde, nous sommes juste en face les portes de l'assemblée du pasteur David Wilkerson. Tu n'as plus que 20 mètres à faire. Il y a des gens qui sont là. Ces gens vont te recevoir. Ces gens vont t'accueillir. Ces gens vont s'occuper de toi. Et ta vie va pouvoir changer. J'aimerais vous encourager, vous qui connaissez déjà Jésus, vous qui êtes peut-être né dans l'Église, vous êtes né dans une famille chrétienne, évangélique, vous avez goûté à la foi, à la Bible, à la célébration, à tous ces privilèges de la foi en Jésus. Libérez cet amour que Dieu vous a donné. Libérez la compassion que Dieu vous a donnée. Saisissez l'opportunité d'accomplir des bonnes actions dans la vie de tous les jours. Et vous verrez la gloire de Dieu tout simplement se manifester. Souvent, nous ne savons pas, nous fixons la barre tellement haute, nous disons, mais seul pour Dieu, seul comptent les choses qui concernent peut-être la repentance d'une personne ou la délivrance d'une personne. Mais pour David, c'était juste un morceau de pizza. Pour David, c'était simplement un repas à partager avec lui. C'était simplement témoigner de l'amour à quelqu'un. Pendant pas mal d'années, avec nos équipes de jeunes, nous avons sillonné l'Europe avec des camions podium. Si vous tapez sur Internet Gospel Vision International, vous verrez des semi-remorques avec des jeunes qui font des sketchs, des mimes, des chorégraphies. Nous avons envoyé des dizaines et des dizaines d'équipes, tenu des centaines et des centaines d'impacts publics en Hongrie, en Roumanie, en Pologne, en Allemagne, en Belgique, en France, etc. Et les jeunes étaient sur les podiums, faisaient des spectacles en proclamant l'évangile de façon créative. Et la plupart me disaient, mais pasteur, quand on a fini le programme, qu'est-ce qu'on fait ? Le public est en bas. Et quand il se trouve en Pologne, le sketch, le mime, la chorégraphie, c'est génial. Parce que on parle pas la langue polonaise, on parle pas en roumain, on prêche pas en hongrois, mais les gens voient les scénettes. Alors un évangéliste prêche 10 minutes avec un interprète pour que le message soit audible. Mais à la fin, les jeunes ont fini le programme et ils me disaient, on descend dans la rue, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je leur disais tout simplement, c'est simple, vous n'allez pas vous tromper. Vous serrez la main du public et à chaque personne, vous dites, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Faites ça. Et les jeunes ont commencé à le faire. J'aurais dit, libérez l'amour de Dieu. Vous êtes capable de faire ça. Et ce qui s'est passé, c'est que dans plusieurs endroits, des miracles se sont opérés. Une femme a recouvré la vue au moment où le jeune prend sa main et dit « Que Dieu vous bénisse ». Elle a recouvré la vue. Un homme infirme, au moment où le jeune lui dit « Que Dieu vous bénisse », il a levé ses béquilles. Il était guéri de son infirmité. Tout simplement parce que nous libérons l'amour de Jésus. Saisissez l'opportunité d'entendre la bonne nouvelle. Saisissez l'opportunité de la visitation de Dieu. Saisissez dans votre vie l'opportunité d'une bonne action. Je terminerai par là. Saisissez la plus belle des opportunités, celle d'être sauvé. Celle d'être sauvé. Il n'y a pas de plus belle opportunité dans la vie que quelqu'un qui abandonne. En anglais, il dit « surrender », quelqu'un qui va lâcher. Qui va livrer sa vie au Seigneur. Abandonnons notre vie au Seigneur. Elle va changer. Moi, je l'ai vu. Quand nous nous sommes convertis avec ma famille, on a parlé de Jésus autour de nous. Et ma mère, tous les matins, avait son culte personnel. Elle lisait sa Bible, elle priait. Puis elle parlait de Jésus autour d'elle. Et puis un jour, elle a eu l'occasion de parler à des jeunes du quartier. Et deux jeunes sont venus pour la voir chaque matin. L'un s'appelait Francis, l'autre s'appelait Philippe. Et tous les matins, enfin, pratiquement tous les matins, ils venaient pour la voir et ma mère ouvrait sa Bible et partageait l'Évangile. Et ainsi de suite, pendant plusieurs semaines, donc elle les recevait. Et l'un des deux, Francis, était un garçon extrêmement intelligent. Presque, je pense, un intellectuel. Mais il vivait dans la marginalité parce que il avait un rejet total de la société. La société ne l'intéressait pas. Mais il posait vraiment des questions pertinentes à ma mère. Philippe, lui, ne se posait pas vraiment de questions. Il venait avec simplicité, avec son cœur. Et puis Dieu commençait une œuvre dans sa vie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, Francis est arrivé, il a dit, « Madame Alexandre, écoutez, ça fait des mois qu'on vous entend raconter toutes vos histoires de la Bible, mais il dit, pour moi, c'est terminé. Je cesse de venir. Je ne vois pas de changement. Et cet après-midi, je prends un train, je vais à Amsterdam parce que là-bas, la drogue, elle est à bon marché. » Alors ma mère lui dit, « Fais pas ça, n'y va pas. Arrête, arrête. » Elle a essayé de l'en dissuader, mais il y est allé quand même. Et quelques jours plus tard, le téléphone a sonné à la maison. Et là, il y avait au bout du fil une demoiselle qui pleurait, une jeune fille qui était désespérée. Parce que Francis venait de faire une overdose dans les rues d'Amsterdam et il était mort sur un trottoir. Philippe, de son côté, il a continué à venir. Il s'approchait avec son cœur, avec simplicité. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait que c'était le chemin. Puis un après-midi, ma mère regarde par la fenêtre et puis elle le voit sur le trottoir d'en face avec une jeune fille à côté de lui, qui est désespérée parce qu'il vient de faire une overdose. Lui, c'est un grand consommateur aussi. Alors ma mère traverse la rue pour essayer d'aider la jeune fille à ramasser Philippe, à le mettre debout. Elle le ramène à la maison. Et ce soir-là, il y avait une grande convention, un grand congrès évangélique qui était organisé à une heure de route de là. L'église du coin avait réservé un autocar pour que les chrétiens puissent y aller. Et ma mère avait réservé aussi sa place. Et voyant dans quel état se trouvait Philippe, elle a pensé en elle-même, mais la meilleure des choses, c'est que ce jeune écoute l'évangile encore une fois. Et il était encore sous les effets de la drogue. Alors elle a décidé de prendre en charge, de payer sa place. Elle l'a mis dans le bus et elle l'a emmené pour qu'il écoute l'évangile ce soir-là. Et ce soir-là, Philippe était au premier rang, toujours sous l'emprise de la drogue. Et à mesure que l'évangéliste proclamait la bonne nouvelle, les effets de la drogue se sont estompés. Il s'est levé, il s'est avancé. Les pasteurs ont prié pour lui. Ce soir-là, il était totalement libéré du tabac, de la drogue, de l'alcool, rempli du Saint-Esprit. Et quelques temps plus tard, il devenait mon beau-frère. Et j'étais le témoin, puisque la demoiselle qui était assise à côté de lui dans la rue, c'est la sœur de Liliana. Et nous avons donc été les témoins de la libération. Philippe n'a plus jamais été le même homme après ce moment où il a entendu l'Évangile. Mes amis, Kairos Jésus, le jour du salut, est en train de passer. Je vous invite vraiment à saisir Jésus, comme cette femme atteinte d'une perte de sang qui voit Jésus qui passe et qui attrape le bord de son vêtement. Elle l'a attrapé pour être bénie. J'aimerais prier pour vous ce soir et je vais demander au groupe s'il veut bien me rejoindre sur le podium pour un fond musical, tout simplement m'accompagnant avec un fond musical dans une atmosphère d'adoration, de contemplation. Et avec l'équipe pastorale, j'aimerais prier pour ceux qui le souhaitent ce soir, quels que soient les besoins, parce que les besoins sont multiples, mais faire un appel et vous demander de saisir l'opportunité de Dieu maintenant dans cet endroit pour que votre vie puisse véritablement changer. On se lève ensemble, vous êtes d'accord? Merci Dieu Tout-Puissant pour ta présence. Merci Dieu vivant pour Jésus qui passe, pour le jour de la grâce, pour le temps de la visitation, pour le jour du salut, c'est maintenant, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Pendant que nous sommes dans la prière, quel est celui ou celle qui ce soir voudrait saisir Jésus qui passe? Je vous invite à lever votre main à votre place. Levez tout simplement votre main vers le Seigneur. Oui, je vois ses mains qui se lèvent. Jésus passe. Vas-tu rester les bras croisés? Vas-tu garder la porte fermée? Ou vas-tu dire, allez, comme Ismaël qui était tenu par cette drogue à l'essence, par Ismaël qui consommait de l'héroïne, de la cocaïne, par Ismaël qui a goûté à toutes les drogues possibles et qui ne voulait pas que je prie pour lui parce qu'il était un homme impur à ses yeux. Mais Jésus voulait le purifier. C'est le moment de dire, j'ouvre la porte de mon cœur, Seigneur. J'ose. J'en trouve la porte de ma vie. Viens dans ma vie, Jésus, et change-la. Alléluia. J'invite ceux qui lèvent leurs mains à sortir des rangs. Venez nous retrouver sur le devant avec le leader de jeunesse, avec votre pasteur. Nous voulons prier pour vous. Nous allons demander au Seigneur de vous visiter, de vous vivifier, de vous remplir, de vous purifier. Il est vivant, il est roi. Pendant que vous nous conduisez dans un temps d'adoration, choisissez le chant qui vous plaira. Dans la salle, on adore le Seigneur et les autres, on s'approche du Seigneur pour recevoir. Recevons le Saint-Esprit, recevons la visitation. Jésus passe, saisissez-le par la prière, saisissez-le avec votre cœur. Laissez Jésus remplir votre vie, laissez-le remplir votre existence. À Dieu soit la gloire. Amen.